Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, avec Yann Kerjouan à la technique. Chaque jeudi à 13h15 et 19h15 environ. J'accueille aujourd'hui dans Jardin d'Isis, Rabia, poète. Bonjour Rabia.
Bonjour.
Rabia a publié un recueil poétique aux éditions Chèvrefeuille étoilée en avril 2019. Une valise dans la tête. Une valise pleine et silencieuse. Immigrée ici et là-bas. Hier, on m'appelait musulman. Je m'appelle Kamel, Mohamed, Jamel, Nasser, Abdelkader, Mustapha. Aujourd'hui, on m'appelle Chibani. Alors, quelques mots autour du terme Chibani. Le Chibani, au féminin Chibania, signifie vieux vieillard ou cheveux blancs, ou travailleur, désigne les travailleurs immigrés des Trente Glorieuses, les oubliés de l'histoire à situation précaire. On les nomme aussi les invisibles. Des Chibani estimés à 800 000, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Pourtant, 800 000 personnes, ce mot je ne le connaissais pas. Afin de leur rendre leur dignité et reconnaître leur rôle majeur dans la construction de la France. Alors, Rabia, pouvez-vous nous parler de l'origine de ce projet d'écriture ?
Bien, justement, ces invisibles, ils sont de moins en moins nombreux et il y avait une urgence à faire quelque chose. Mais avant de faire ça, je suis allée en Algérie pour la première fois en 2016. J'avais jamais vu le pays de mes parents. Et après le décès de ma maman, on est allé avec mon frère et ma sœur organiser une cérémonie religieuse. Et j'ai découvert le lieu de naissance de mes parents. C'était absolument grandiose et magnifique. C'est la Kabylie. Et quand je suis revenue en France, je me suis dit que je ne pouvais pas faire comme si ça n'existait pas. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de ces travailleurs immigrés. Et au même moment, au moment où je reviens d'Algérie, dans le quartier de Figueroa, il y a la boutique d'écriture qui organise un projet qui réunit toutes les associations du quartier. En direction des habitants du quartier pour les valoriser, pour connaître leur parcours, leur histoire, leurs expériences. Et moi, j'avais commencé à faire des recherches et c'est tout naturellement que je suis allée vers les Chibani. Donc, dans le quartier de Figueroa, il y a un foyer à Doma. Et donc, tous les mardis matin, pendant 6 mois, je suis allée boire le café avec eux. Et je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas trop quoi faire. Je leur ai simplement dit que moi, j'avais envie d'écrire quelque chose. Mais je ne voulais pas ni leur poser de questions, ni je voulais que ce soit simple et que je ne sois pas là comme la personne qui vient poser des questions. Donc, il y a eu des fois où il ne se passait rien. Puis, il y a eu des fois où la parole s'est libérée. Et puis, moi, j'ai utilisé tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai pris, des silences, des sourires, des regards, des attitudes qui m'ont mis un peu en écriture. Et puis, je me disais, alors, je prends ça d'eux, mais qu'est-ce que je donne de moi? Et en même temps, ça évoquait un peu mon enfance. Donc, j'ai décidé aussi de mettre ma part de témoignage dans cette histoire.
Oui, ça rentrait en résonance avec leur histoire.
Absolument.
Et je pense qu'il... Ils sont heureux de voir la finalisation du livre.
Alors, ce
peut-être.
Sont des gens très silencieux.
Oui.
Donc, ça a été très difficile de les faire sortir de leur foyer pour venir assister à la lecture. Ça évoque trop de souffrance.
Oui.
Et donc, la distance est restée malgré tout. Quoi.
Voilà. Eh bien, on va le dire maintenant. Ce dialogue a été joué au théâtre La Vista,
oui,
justement.
Oui. C'était une lecture à deux voix. Donc, parce qu'au départ, ça devait être qu'un texte sur les Chibani et que mon expérience a fait que de témoigner de mon expérience à moi a permis que ça fasse un texte à deux voix. Ça s'est construit en fait un peu malgré moi. Et donc, on a proposé une lecture publique. À la fin de cette année de projet, toutes les associations ont restitué leur travail sur une année et moi, c'est devenu une lecture publique, et cette lecture publique a eu un tel impact qu'on m'a sollicité pour faire des recherches de maisons d'édition, Et Chèvrefeuille a répondu présent.
Alors, ce texte apparaît réellement sous la forme d'un dialogue, imaginaire entre une fille et son père. Un besoin pour la fille de faire connaissance avec les paysages et les émotions du père dans un territoire de tu, de non-dit, y compris celui de l'amour qui n'est pas verbalisé.
Exactement. De rencontrer ces personnes âgées, moi je revoyais mes parents, j'ai perdu mes parents et mes parents n'ont rien raconté de ce qu'ils ont vécu, de leur exil, de comment ça s'est passé. C'était un sujet un peu difficile et ils passaient beaucoup dessus. Donc à travers eux, j'ai cherché des réponses, j'ai fait des recherches de livres, de vidéos, d'audio, de témoignages, enfin tout ça. Et c'est vraiment, il en est ressorti, c'est presque une petite fille qui demande à son père, raconte-moi quoi.
Oui, et dans la forme, ça se visualise effectivement, puisqu'on voit les textes de la fille, les émotions de la fille, son questionnement, et les confidences du père qui répondent, qui sont des réponses et qui alternent tout au long du recueil. Et on distingue très bien ce qui concerne la fille. Oui. Ne serait-ce que parce que le père, l'écriture est en italique, donc on voit très bien qu'il s'agit du
oui,
père.
Oui. Et puis, ce qui est ressorti dans ce travail, c'est que lui, tout au long, enfin, lui, les Chimani que j'ai rencontrés, il y a quelque chose de la question du dernier lieu qui est beaucoup revenu dans les échanges, où ils se demandaient s'ils allaient finir leur vie en France ou dans leur pays d'origine. Et donc, cette question-là, elle est un peu comme un fil conducteur tout le long du texte. Et en même temps, ma part à moi, il y avait cette colère aussi qu'on nous identifie toujours en tant que maghrébin, alors que moi, je suis née en France, que j'ai découvert l'Algérie à 50 ans. Et ce propos, il était important et il revient dans le livre. On m'a toujours dit que j'étais née dans un pays qui n'était pas le mien. Et ça revient dans le travail.
Oui, d'ailleurs, vous le dites, immigrer ici et là-bas. Ce recueil se présente comme également comme un questionnement autour de l'histoire. De l'histoire contemporaine, de l'histoire du XXe siècle, vous parlez de la Méditerranée comme d'une matrice qui porte en son sein une cicatrice. Et un lien qui serait comme d'unifier définitivement les deux berges d'une même blessure. C'est ce que j'ai ressenti en vous lisant.
C'est tout à fait ça, en fait. Entre ces deux pays, quelle histoire, quoi.
Oui.
Quelle histoire,
oui.
Et puis quelle souffrance. Jusqu'à aujourd'hui encore, il y a cette blessure qui n'est pas réparée et qui a affecté tellement de monde que voilà, j'avais besoin de parler de la Méditerranée, qui est quand même
ce lien entre les deux, qu'on pourrait voir comme... Une unité, c'est les deux pays, enfin peut-être le sud de la France et puis l'Algérie unifiée autour de la Méditerranée. Alors la souffrance d'aujourd'hui, c'est la Méditerranée qui devient un cimetière liquide.
Effectivement, j'ai pas les mots, donc j'écris en fait.
Quand
j'ai pas les mots, j'écris.
Vous le dites très bien dans un autre recueil autour de l'exil et l'errance, l'homme qui passe. Vous dites souvent, je l'ai retrouvé souvent dans votre écriture, l'histoire ne s'arrête jamais, comme un éternel recommencement que seuls les mots peuvent interrompre les drames.
Oui, ben... À un moment donné, quand j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, que l'histoire se répète, et chaque fois, moi, mon questionnement, c'est comment on fait pour que l'histoire elle arrête de se répéter, comment on répare, comment on avance autrement, comment on sort d'un sillon pour prendre un autre chemin, et voilà, ça fait partie de mon travail d'écriture de. Essayer de comprendre là.
Et mettre en lumière donc justement ce destin, c'est aussi
ouais.
ça contribue à mettre des mots sur quelque chose qui est pratiquement ignoré. Enfin,
ignoré, douloureux, presque tabou.
Tabou, oui, certainement.
C'est comment faire, moi, c'est tout le questionnement de mon écriture sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut faire, comment dire les choses, comment reformuler, traduire la traduction à chaque fois pour essayer qu'un jour on arrive à se comprendre et à réparer ses blessures, quoi.
Alors, la cigogne nous accompagne tout au long des pages. Vous dites, tout comme la migration des cigognes, la migration de l'homme ne s'arrête jamais.
Oui. Les cigognes, je les ai découvertes au moment où je suis allée en Algérie, en 2016, au mois de mai. C'est la période où, justement, les cigognes sont là,
oui.
Dans la région, en tout cas, où j'étais. Il y avait les bébés, tout ça, tous les nids de cigognes. Dans toutes les rues, il y a un poteau, au-dessus du poteau, il y a un nid de cigognes, quoi. Il y a des cigognes partout.
Ah.
Et moi, j'en avais jamais vu.
Il y en a à latte, vous en avez à latte, à la maison de la nature,
mais oui.
Qui sont sédentarisées.
Voilà, et c'est marrant l'écho que ça m'a fait, justement, oui. De l'exil de ces gens qui partent, qui reviennent, et les cigognes sont vénérées en Algérie, parce qu'elles disent qu'il y a quelque chose de l'ordre du divin qui fait que personne ne leur dit, elles arrivent quand il faut arriver, elles partent quand il faut partir. Et je me suis dit, mais c'est similaire à l'histoire de ces immigrés, quoi.
Oui, et je n'en ai pas parlé, mais également, vous le dites très, très, très fréquemment, ces immigrés qui ont construit la France, c'est l'importance de ces personnes qui ont construit... Mais tous les bâtiments, les hôpitaux, les hôtels, les routes, les autoroutes.
Et j'en ai rencontré plein qui oui. ont été dans des domaines très différents, dans l'automobile, dans le bâtiment. Mon père était dans les mines de charbon.
Ah oui, c'est pendant vrai, 30 vous le disiez à Alès. Oui.
Voilà, donc passer de la Kabylie au fond de la terre de France,
c'est violent, oui.
C'est violent et c'est oui. ce qui m'a obligée à travailler ce livre, quoi.
Je pense que nous allons écouter quelques poèmes,
avec plaisir.
Passages.
Avec plaisir. Au bord de mes origines, je flirte avec la rive bleue. Ici, je me place à la jonction où la mer touche la montagne. Je regarde cet homme seul, assis sur son banc. Mon père aurait le même âge. Dans son costume de solitude, ses mains ressemblent à des racines qui mendient un peu d'eau. Côtoyer l'autre pour éprouver le silence de son passé décomposé. On m'a toujours dit que j'étais née dans un pays qui n'était pas le mien. Je suis née en France, fille d'immigrés. Je m'appelle Fatima, Jamila, Nadia, Myriam, Samia, Keltoum, liberté, égalité, fraternité, deuxième, troisième génération. Aujourd'hui, j'ai besoin de tirer sur le fil à soi, revisiter la substance de mes rêves d'enfance. Chercher dans l'intervalle du langage ce que peut dire la promesse des mots. Je porte dans mes veines des souvenirs qu'on ne m'a pas racontés. Je porte dans mon sang des souliers vides, une robe fanée, une valise de phrases seules. Je suis comme l'arbre solitaire qui a poussé loin de sa terre, sans quitter le pays qui m'a vu naître. Je sais que l'exil est tatoué sous ma peau. Des deux côtés de la Méditerranée, le bord de mer dessine un chemin qui se remet en question à chaque vague. Déchiré entre deux cultures, piégé dans un exil qui n'est pas le mien, je cherche ma préhistoire. Dans le sable, les empreintes ont disparu, le bateau abandonné se déshydrate. Lui donner des phrases simples, épluchées jusqu'à la racine, pour comprendre le voyage. Un appel de mots qui viennent de loin, proche de moi, l'autre moi, les solitudes sont en route. Là-bas, les hommes partent, les femmes restent, et tous regardent les mêmes étoiles. Là-bas, les femmes n'ont le choix que d'être fortes, et les hommes de l'exil doivent se taire pour avancer. Les cigognes s'installent dans les nids du passé pour écrire la suite de leur histoire. L'arbre généalogique commence au cimetière. Je me balade dans l'invisible de la vie et de la mort, d'une seconde à l'autre. de ce côté de la Méditerranée. Je fais un signe de la main vers l'horizon et j'espère, secrètement, que de l'autre côté, quelqu'un me répond.
ويحكي حكاية مدى بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي عالف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونملو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية
كل واحد منا Que reste-t-il dans ma mémoire que je pourrais te partager? Le temps a passé, la lumière est en train de finir. Au bord de mes lèvres s'est installée la carence des mots. L'habitude a forgé sa place. J'aime bien m'asseoir sur ce banc près du cimetière, dans la ville. Les arbres sont exilés, comme nous. Ils ne font pas de bruit, comme nous. Témoins de l'histoire, comme moi. Je suis plusieurs à chercher des passages pour te dire la parole des hommes au masque de silence que tu croises. Ceux qui jettent une bouteille de vieillesse à la mer. Des hommes au vieux corps emmuré. Des hommes épuisés qui font encore la traversée pour rester utiles. Pour rester debout. Premier jour en France, vendredi 5 décembre 1947. Trouver un chemin entre les mots, comme les étoiles qui meurent sans faire de bruit. Paralysée, je dois me mettre en mouvement. J'avance avec ma maigre récolte de mots français et la peur de l'autre. Moi. L'étranger, l'arabe, celui qu'on ne nomme pas, celui qu'on tutoie systématiquement. Je ne suis pas arabe, je suis berbère, amazigh. J'ai été sélectionné, mon corps ne m'appartient plus. Le chef me dit d'aller là, je vais là. Obéir, se taire, exécuter. Obéir, se taire, exécuter. Mon costume d'exilé me colle à la peau. Mes phrases se courbent d'excuses. Je suis comme un automate dans un univers sonore que je ne comprends pas. Je fais des gestes mécaniques, je fais des gestes de survie sous l'œil vigilant du contremaître. Oui, j'ai vu la vitrine des automates à côté de la gare le premier jour. C'est beau et c'est étrange. Tout le monde regarde, tout le monde sourit. Ici, les verts et bleus.
Mmh.
automates. Leurs pas les conduisent du baraquement au chantier, du chantier au baraquement, automates. L'administration n'a pas toujours voulu qu'ils fassent venir leur famille, comme s'ils n'étaient plus des hommes mais seulement des machines. Avec le temps, la machine s'enraye, les murs chuchotent aux murs. Assourdissante la salle des pas perdus, les mots n'informent plus la blessure de la charpente qui s'effondre. Ils n'entendent plus les mots de l'amour. Ils se taisent, dévorés par les frustrations. Le mutisme devient une seconde peau. Ils courbent les chines, ils reconstruisent la France. Automates. Entre nos deux terres, à la poche des eaux, nous avons la même mer et nos pères sont si loin. Comme une soif jamais étanchée, l'absence nous donne la main, constamment. Une cité minière quelque part en France. Vivre avec les non-dits, dans un espace surpeuplé. L'exil est douloureux, l'enfant qui le porte ne questionne pas, il sent. Alors, discrètement, au pied des arbres et sur les bancs, il sème des espaces à remplir de mots pour se protéger du silence. Il sème des espaces à remplir de mots. Utiliser une autre langue, se taire et attendre, un jour viendra. Il était une histoire qui fait toujours mal. Je t'attends, Chibani.
زون دي غالي مدي بوض مجرى الترى الشرق الغربي الطقير يذرموني زميرارا يذرموني زميرارا نكثر يضي غردوح يا يمو غرب تصغرى اشفي غثمو ثلطي غرزورين بفرارا غرزورين بفرارا نضي اسمي تلولا عذون ورغب غينا لهم يسد فرحة ضمي مقرا عذو غمس فسد في الحارة نضي اسمي تلولا عذون ورغب غينا لهم يسد فرحة ضمي مقرا عذو غمس فسد في الحارة
Tournez la page. Il faut tourner la page. Mon pays était colonisé. Ma famille avait faim. Je n'ai pas choisi. Alors j'ai fait comme mes camarades. J'ai serré les dents. J'ai suivi le mouvement. Quand tu ne sais ni lire ni écrire, tu observes. C'est comme s'il y avait une vitre épaisse entre toi et le reste du monde. Tu observes le rythme de cette autre vie. Tu déchiffres les expressions sur les visages. Tu lis l'indifférence. Tu lis la colère de cette bouche qui te hurle dessus parce que tu ne comprends pas. Tu lis le mépris dans le geste de la main qui te montre la direction à suivre. Hier soir, j'ai regardé la lune qui me regardait la regarder. Peut-être que mes enfants et mes petits-enfants la regardaient aussi, en même temps que moi. N'oublie pas que la lune est la même pour tous. Tiens-lui compagnie, elle te racontera les rêves de l'humanité. Ma famille me manque, ma terre aussi. Dans mes rêves, je commence à vivre, ici, là-bas. On construit des tombes aussi, de toutes les tailles, de toutes les formes. Mais sous terre, on est tous pareils. À qui j'appartiendrai quand je serai mort? Sur quelle terre construire ma tombe et qu'une autre histoire naisse de mon départ? J'ai posé ma valise dans le béton, j'ai regardé passer le monde, je l'ai construit pour les autres, avec ou sans papier. quelles que soient les démarches administratives, quels que soient les textes de loi, au fond de la Méditerranée se trouve la trace d'un cordon ombilical. La cicatrice de ce chemin touche nos deux pays, une tache de naissance que la mer caresse pour toujours.
Ina,
ici, je ne suis rien, invisible. Je ne peux avancer qu'avec discrétion. En 1947, j'ai quitté l'Algérie française alors que je n'étais pas français. Invisible. Ici, en France, normalement, je n'étais pas étranger puisque d'Algérie française. Invisible. Je n'étais plus algérien non plus puisque colonisé. Invisible. J'ai servi l'armée française, invisible. Dans les livres d'histoire, invisible. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. Je suis un étranger pour eux, invisible. J'ai posé ma valise sur un territoire inconnu, un non-lieu, pour regarder passer le monde. Aujourd'hui, mon chapelet de prière me repose la question : où est-ce que je m'arrête ? Nous portons tous les deux l'histoire d'un exil qu'on n'a pas choisi. Par la fenêtre, la cicatrice des chemins propose une halte près de la clôture des itinéraires multipliés. Je cherche l'ami qui m'apaise un peu, qui me prête l'épaule du temps. Trouver l'angle d'une approche sur la route des hommes exilés. Mon cher Chibani, au pied de la lettre, je t'attends depuis si longtemps. Pose l'acte de dire. Laisse une empreinte aux générations qui ne savent plus, à l'éphémère de l'éphémère sans verbe, pour empêcher l'histoire de refaire.
Merci Rabia d'avoir partagé avec nous ce récit poignant, ce Chibani, cette histoire du Chibani. Où est-ce qu'on peut se procurer donc le recueil Une valise dans la tête, je le rappelle, publié aux éditions Chèvrefeuille étoilée?
Alors vous pouvez le commander directement auprès de la maison d'édition Chèvrefeuille étoilée ou chez votre libraire préféré.
Très bien, merci Rabia, merci beaucoup.